J'aimerais prier pour mon ami Jean Vianney. Il est pasteur d'une église baptiste qui appartient aussi à notre association, Noisy-le-Grand. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons. Il est venu aussi avec sa famille,
qui est
juste derrière. J'aimerais prier pour lui. Et oui, Seigneur, gloire soit l'agneau sur le trône. Merci, Seigneur, parce que lorsque ton peuple s'est réuni, tu es là. Et Seigneur, nous avons chanté, Seigneur, que tout le reste perd en importance lorsque nous sommes là dans ta présence. Seigneur, je te prie pour Jean que tu puisses l'utiliser pour parler à nos cœurs, à nos esprits. Seigneur, que ton Saint-Esprit l'utilise, Seigneur, pour glorifier ton nom et que nous puissions, Seigneur, repartir de cette soirée louange, bénie par ta présence, par ta parole, et que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je te bénis, je te garde.
Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas l'impression. Quand j'ai dit est-ce que j'espère que vous allez bien, il y a certains qui me regardent qui font ça.
Oui.
En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là parmi vous. Alors, je ne suis pas nouveau hein, pour ceux qui sont de Villiers-le-Bel. Je crois que vous me connaissez. Les jeunes m'ont appelé le voleur. Hein. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais vous expliquer. Mon épouse est à grand à l'église de Noisy. Et c'est aussi, j'ai rencontré mon épouse. Donc, quand je suis venu, les jeunes me voyaient. Ils m'appelaient voleur parce que je devais partir avec elle après dans mon ministère. Donc, parti de Villiers-le-Bel. Je ne sais pas si ses parents m'appellent voleur, mais ils sont très contents de m'avoir. En tout cas, je suis très... Lorsque le comité d'organisation m'a interpellé pour ce thème, l'intimité avec Dieu, j'étais très content. Je me suis dit, waouh, je vais partager sur l'intimité de Dieu, le cœur à cœur avec Dieu. Et quand j'ai commencé à travailler le thème, j'ai comme une claque pour me dire, mais Jean, arrête, calme-toi. Tu vas parler de cœur à cœur avec Dieu. Tu vas parler d'intimité avec Dieu. Tu es pasteur. Est-ce que toi-même, tu vis cette intimité? Je ne dis pas que je le vis, hein, je ne vis pas, mais est-ce que je suis constant dans cette intimité avec Dieu, finalement? Et ça a été une grosse claque. Et je me suis dit, OK, Seigneur, il y a plein de choses à dire sur l'intimité avec Dieu, mais qu'est-ce que tu aimerais nous apprendre ce soir? Qu'est-ce que tu aimerais que nous puissions garder en tant que chrétien, ou peut-être si vous êtes là en tant qu'invité, qu'est-ce que le Seigneur aimerait nous transmettre ce soir? Alors pour commencer, j'aime bien faire intervenir les gens, vous allez voir. Bon, pas beaucoup aujourd'hui. J'ai deux questions. Déjà, je vous présente le plan. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va voir dans un premier temps, on va avoir une introduction avec deux questions qui vont vous inviter à réfléchir. Et peut-être n'hésitez pas si vous voulez me donner vos réponses, ça sera aussi très intéressant de voir ce que vous pensez. Et ensuite, nous allons essayer de donner un peu une définition, c'est quoi l'intimité? Et finalement, c'est quoi l'intimité avec Dieu? Et dans un troisième temps, alors pourquoi est-ce vital en tant que nous, en tant que chrétiens, de développer cette intimité avec Dieu? Et pour cela, je vais vous proposer sept raisons valables pour pouvoir développer notre intimité avec Dieu. Alors, c'est pas sept, ça veut dire qu'il n'y a que les sept. Hein. C'est moi, dans ma réflexion, je me suis dit, ah voilà, les sept qui ressortent. Et je pense que pour moi-même, c'est important de me les intégrer pour pouvoir aussi commencer à vivre cette intimité avec Dieu. Et enfin, nous allons voir comment le mettre en place, l'intimité au quotidien, sachant que c'est, je ne sais pas, peut-être pas pour vous, mais c'est un réel défi. Vrai ou faux? Ouais, j'ai pas l'impression, je crois que je suis seul dans mon défi. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vous pose deux questions qui sont combien de vos amis sont vraiment proches de vous, hein? Ceux qui sont proches de vous, ils sont au point de vous confier tout. Combien de vos amis sont vraiment proches de vous au point de vous confier tout? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que vous sentez-vous à l'aise de partager vos pensées, même les plus sombres, avec tous vos amis sans hésiter? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce sont des vraies questions de réflexion. Et quand je regarde aussi les couples. Hein. C'est intéressant parfois de regarder les couples parce que j'ai compris que même avec nous, les couples, on ne dit pas forcément tout. Hein. Tic-tac. Du coup, je crois qu'il y a certains qui ont déjà la réponse. Et du coup, La première question, combien de vos amis sont au point, sont tellement proches de vous au point de vous confier leur, tout ce qu'ils pensent? Vous avez des amis qui vous disent tout? Non? Jachin, ah ouais? Ah ouais? Oh, c'est cool. C'est intéressant. Et maintenant, la deuxième question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de partager tout, même vos pensées les plus sombres? Quand je dis, quand les gens ils disent c'est quoi les pensées plus sombres, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez vos pensées les plus sombres. Moi, je connais mes pensées les plus sombres, mais je ne suis pas sûr qu'on a les mêmes pensées. Alors, si nous y pensons, ce n'est pas toujours simple, hein? On est sûr. Que ce soit nos amis les plus intimes, notre copain, notre copine, on ne dira pas toujours tout facilement, parce que ce n'est pas facile de dire tout ce qu'on veut. On fera parfois des sélections et parfois même dans le couple. Moi, je m'imagine, on discutait avec mon époux, je lui ai parlé de la peine de mort. Je crois que dès que j'ai commencé à parler, l'ambiance de la maison a changé. J'ai dit, bon, on va changer de sujet, on passe à autre chose, on revient sur des discussions plus simples. Mais peut-être parce qu'on craint d'être mal jugé, d'être mal compris et d'être jugé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire être ce confident. Dieu désire être ce confident qui te connaît mieux que personne, qui te comprend et qui ne te jugera pas. Mais qui désire aussi que toi, tu le connaisses. Parce que ce n'est pas juste une relation unilatérale, hein, c'est bilatéral. Dieu veut que tu le connaisses et Dieu veut aussi te connaître et vivre des moments avec toi. Alors la première question qui est là, c'est que signifie le mot intimité? Quand on parle d'intimité, qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs sens. Quand on tape le dictionnaire ou quand on réfléchit, on cherche un peu, on trouve. Déjà, c'est comme si c'est un autre jardin secret. Lorsqu'on parle d'intimité, dans un premier temps, on parle de un peu comme un jardin secret. Hein. Nos pensées, nos émotions, nos expériences que nous ne partagerons pas forcément avec qui que ce soit. Et quand je vous regarde, je me dis, est-ce qu'ils ont des jardins secrets? C'est entre vous et Dieu. C'est un lien fort. La deuxième définition, c'est un lien fort, une relation étroite et familière. Hein, des personnes avec qui on partage nos peurs, nos rêves, nos faiblesses et qui font pareil avec nous, se sentir proche, compris, en sécurité avec les autres. Et l'autre, c'est une vie privée, notre corps. Hein, on va souvent, quand on a des médias, la question du genre et tout ça, chacun dit c'est mon corps, c'est mon, c'est ma, c'est, ça m'appartient. Voilà, c'est notre vie privée, notre maison. Ma maison, c'est mon cocon, c'est mon truc, c'est mon lieu d'intimité, nos moments privés, ce qui nous appartient, ou les endroits où nous sommes tranquilles. En fait, c'est un peu ça notre intimité, finalement. Maintenant, c'est quoi l'intimité avec Dieu? On a toutes ces définitions, on a quelques définitions là. Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont une idée, c'est quoi l'intimité avec Dieu? J'espère que vous n'êtes pas fatigué, hein. Vous avez beaucoup chanté, mais j'espère que vous n'êtes pas fatigué, rassurez-moi. Sinon, je rappelle le groupe, ils vous reçoivent encore et on reprend les trucs. L'intimité avec Dieu, vivre une relation profondément personnelle et authentique avec lui. Ce n'est pas seulement connaître des choses sur Dieu. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je peux me dire que je connaissais beaucoup de choses, j'ai fait l'école des dimanches. Mais ce n'est pas ça, l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas connaître des choses sur Dieu. Mais c'est apprendre à le connaître comme une personne, lui parler, l'écouter, lui ouvrir son cœur, marcher avec lui chaque jour, même dans les petits détails du quotidien. Ça, l'intimité avec Dieu. C'est faire de lui notre confident, notre meilleur ami. C'est passer du temps avec lui, développer une relation de confiance, les amis. L'intimité avec Dieu, c'est ça. On peut passer du temps avec quelqu'un, discuter et pourtant ne pas vraiment créer un lien profond. Je peux aller chez mon voisin, on a des bonnes discussions parfois, on discute sur la ville, on discute sur le quartier, sur le maire et tout ça. Je peux entrer dans sa maison, mais pour autant je ne suis pas sûr qu'il y ait une intimité parce qu'il ne connaît pas qui je suis, il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas mes difficultés, il ne connaît pas l'intérieur de moi. Et dans une relation amoureuse, on peut un peu comparer cette intimité avec Dieu un peu comme une relation amoureuse. On veut passer du temps avec l'autre. On a un cadre de confiance. On a des marques d'affection. On se voit régulièrement. On a des moments de qualité. On s'envoie des messages à tout moment, hein, même à minuit, 1h, 2h, 3h, on ne dort pas, on est toujours en train de s'écrire. Une heure de connexion est comme une éternité quand on est avec notre amoureuse. Hein. Les jeunes, est-ce que vous vivez ça? Pas forcément. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que je vivais. Écoutez les amis, être en intimité avec Dieu doit produire ce même sentiment. Lorsque nous sommes dans sa présence, plus rien n'a d'importance, c'est ce qu'on vient de chanter. Mais la question, est-ce que quand je suis dans sa présence, est-ce que rien n'a plus d'importance? Est-ce que j'arrive à me déconnecter et à passer ces moments de qualité? Faisons de Dieu notre confident sûr et notre meilleur ami. La deuxième question et le deuxième point, c'est mais pourquoi est-ce vital de développer une telle intimité avec Dieu? Pourquoi est-ce important? Je suppose que quand les organisateurs ont réfléchi sûrement parce qu'ils ont vu des besoins dans l'Église, au milieu des jeunes, au milieu même de nous, même adultes en tant que chrétiens. Hein, ça fait je ne sais pas combien d'années j'ai accepté Jésus. Mais c'est toujours un combat, chaque jour, de développer cette intimité. Est-ce qu'un arbre peut survivre s'il n'est pas irrigué? Peut-il porter du fruit s'il n'est pas entretenu? Une branche peut-elle porter des feuilles si elle est coupée de l'arbre qui est la source? Oui, il est vital, les amis, de développer une relation avec Dieu parce que, premièrement, c'est primordial. C'est essentiel pour notre survie spirituelle. Et c'est une question de vie ou de mort. Alors, je vous propose 7 raisons, qui ne sont pas les seules raisons, mais 7 raisons de développer une intimité avec Dieu. La première raison, c'est que cette intimité nous permet d'écouter la voix de Dieu au quotidien. Cette relation, qui est finalement une relation bilatérale, hein, on a dit, ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas que Dieu est là-bas, Dieu nous dit, non, il y a une relation qui est là. C'est comme une relation entre mon épouse. Mon épouse ne va pas parler, chaque fois elle va parler, moi je serai juste là comme ça sur le canapé. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on ait ce moment d'écoute, de voix, d'intimité, de privilège qu'on peut ressentir les uns les autres. C'est ce moment où nous parlons à Dieu par la prière, nous lui parlons et lui aussi nous parle par sa parole. Il nous permet de l'écouter, de discerner sa volonté finalement. Quelle est sa volonté dans ma vie? Quelle est sa volonté pour mon travail, pour mes études, pour ça? En fait, il faut que je m'arrête et que je l'écoute. Parce que si je n'ai pas ce moment, ce sera dommage. Et c'est ce qu'on peut voir un peu avec ce texte de Luc, chapitre 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée à de nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Dieu dit donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part, elle ne sera jamais enlevée. » Est-ce que la question, c'est que aujourd'hui nous avons choisi la bonne part? Oui, nous avons accepté Jésus dans notre vie, pour certains. Nous avons décidé de le suivre. Mais est-ce que nous avons suivi Jésus après on a commencé à vaquer à toutes nos occupations et finalement mettre Jésus dans le placard? Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit au pied de Jésus parce qu'elle sait que, en fait, en lui, elle a ces moments de qualité, elle a ce privilège. Quand on voit le Notre Père, on dit c'est notre Père, ce n'est pas notre ami, c'est notre Père. Cette relation privilégiée de père et enfant. Et on aimerait passer du temps avec lui. On aimerait l'écouter, le chanter des berceuses, le blottir dans ses bras, nous démontrer que dans les situations que nous vivons, il est là à nos côtés. Mais pour ça, il faut que nous allions vers lui, pour l'écouter. Et c'est ce que Marie fait. Et Marthe est dépassée. Dépassée. Les amis, choisissons la bonne part. Notre intimité est une question de vie ou de mort. Nous avons besoin d'écouter le Seigneur. Nous avons besoin de savoir où il aimerait nous diriger, où il aimerait nous amener, quelle est sa volonté pour ma vie. Il faut que je m'arrête, il faut que je l'écoute, en fait. Notre intimité est essentielle pour notre croissance spirituelle. Jean 15, verset 1 à 5, il dit « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. tous les sarments en moi qui ne portent plus de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui le portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous demeurez en moi, vous ne porterez aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, notre vie spirituelle, notre croissance spirituelle dépend de cette intimité avec Dieu. Jésus se présente ici comme le vrai cep, le tronc. Et il dit, vous êtes des branches, finalement, si on résume comme ça. Moi, je suis le tronc et vous êtes des branches. Et le tronc est la source. Il dit, si vous n'êtes pas rattaché au tronc, en fait, vous ne pouvez pas porter du fruit. Vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas porter des fruits. Vous êtes finalement mort. Et les amis, on a besoin de développer cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu, parce que ça nous permet de grandir. Grandir, parce que quand on est avec lui, on connaît sa pensée, on connaît ce qu'il veut pour nous, on connaît sa volonté pour notre vie. Et qu'est-ce que nous devons faire par la suite? Nous dépendons de Jésus pour croître. Sans cette connexion, sans ce cœur à cœur, nous ne pouvons rien accomplir spirituellement. Quand le cep est la source vitale, nourrissant le sarment et assurant sa croissance, de même Christ est la source, la vraie source vitale qui nous nourrit et qui nous fait croître. Cette intimité avec Jésus est le fondement de notre vie en Dieu. Restons constamment attachés à lui. Notre croissance. Ça fait 10 ans que je viens à l'église. Mais lorsqu'on me regarde, est-ce que je reflète vraiment un chrétien de 10 ans ou je reflète un chrétien qui vient à peine d'accepter Jésus? Si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et lorsqu'on parle le verbe demeurer ici, là, ce n'est pas juste une relation éphémère, mais c'est une relation continue, soutenue et intime. Parce que c'est ce que le Seigneur veut avoir avec chacun de nous. Une relation constante. Pas juste quand je traverse par les moments difficiles, je vais, et quand tout va bien, je fais ma vie. Je la vis comme bon me semble. Mais non, c'est continu, à chaque instant, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais moments, le Seigneur me veut dans sa présence. Parce qu'il veut continuer à me faire du bien. De notre intimité découle aussi l'œuvre de sanctification. L'œuvre de sanctification. Il est le vigneron qui travaille sur chaque branche attachée au cep. Il nous taille, il nous purifie, il nous discipline pour que nous portions des fruits. C'est ça la vie avec Jésus. Jésus, ce n'est pas juste, il va nous bénir. Hein? On a son habitude de dire, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Oui, Dieu va me bénir. Mais qui dit suivre Jésus signifie aussi accepter l'étape de transformation qu'il a prévue pour nous. Mais cette étape de transformation, ça se passe par sa présence. Celui qui demeure en moi porte des fruits en abondance. Et quand on parle de fruits, on peut penser à Galates 5, 22. Hein. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? La paix, la bienveillance, la tempérance, la patience. Et vous pouvez lire et vous allez voir qu'il y a plein de choses que le Seigneur veut faire avec nous. Si nous ne demeurons pas à lui, il nous dit, nous ne portons pas du fruit et en plus nous serons coupés et jetés dans le feu. Acceptons d'être transformés. Je sais qu'on n'aime pas être transformés. On n'aime pas quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves. On préfère vivre notre vie chrétienne sans épreuves. Mais pourtant, ces épreuves nous transforment, nous préparent, nous équipent. Mais tant que nous ne comprenons pas qui est notre Dieu et comment il fonctionne, en fait, on sera toujours en train de se plaindre. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Je suis tout seul dans ma situation. Pourquoi continuer à suivre Jésus et vivre ça? Pourquoi? Non, j'arrête. Mais non. On comprend que Dieu a un projet pour nous quand on a cette intimité avec lui. De notre intimité, notre bonheur en dépend, les amis. Et c'est la raison pour laquelle le diable ne va jamais nous laisser tomber. Je lisais un livre qui s'appelle « Les tactiques du diable ». Et dans ce livre, il parle de la prière. Il montre à quel point les démons, les esprits sont acharnés contre les chrétiens pour les empêcher de s'arrêter et d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. les occupe. Hein? Cette année, on a décidé avec mon épouse de lancer une lecture de la, ensemble, la lecture biblique en un an. Au bout de 4 jours, j'étais déjà à la ramasse. J'étais en train de préparer la réunion de prière. J'étais en train de. En fait, j'avais toujours l'impression que chaque fois que je voulais m'arrêter, j'avais toujours des occupations qui me tombaient sur la tête. Et si je n'avais pas les occupations, j'étais en train de scroller mon téléphone, Facebook, les réseaux sociaux. Je m'occupais. Et quand je disais, ah Seigneur, il faut que je m'arrête, soit c'est le bébé qui pleurait. En fait, j'avais l'impression que ma vie, je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais pourtant, notre bonheur en dépend, les amis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Le bonheur. Il y a un bonheur, les amis. Il y a une richesse. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Appuisé qu'on est dans sa présence. Le bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, vous vous trouvez dans des difficultés. Vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas, vous êtes submergé. Et lorsque vous prenez juste votre Bible, vous l'ouvrez, vous la lisez, vous avez une sorte de paix qui descend et qui vous envahit. Le problème n'a pas disparu. Hein? Le problème, il n'a pas disparu, il est toujours là. Mais vous sentez une paix qui vient dans votre cœur qui vous dit, calme-toi. Je suis là. Je suis là. Prends ce temps. Passe avec moi. Et je te conduirai même dans ces temps d'incertitude, de problèmes, de difficultés. Parce que je suis ton Dieu. Si j'étais sauvé à la croix, pourquoi je te lâcherais-je sur la route? Non. Ce n'est pas ce Dieu à qui je crois. Ce Dieu que je crois, c'est un Dieu qui m'a sauvé à la croix et qui continue à prendre soin de moi. Notre bonheur en dépend, les amis. Lorsque je passe du temps avec Dieu, lorsque nous passons le temps avec Dieu, nous sommes comme un arbre près d'un cours d'eau. On est nourri, on grandit dans notre foi, on donne toujours le fruit lorsqu'en vient la saison. Et qu'est-ce que ça signifie, on donne du fruit quand la saison vient, hein? C'est simplement quoi? Quand c'est la saison d'être patient, parce qu'on est dans cette intimité avec Dieu, Dieu nous équipe pour que nous puissions développer la patience. Lorsqu'on a besoin d'aimer notre ennemi, justement, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on dit, Seigneur, voilà la situation, ça me dépasse. Mon collègue, là, il m'énerve. Chaque fois que je le vois, j'ai envie de le mettre dans l'ascenseur. Je ne sais pas, mais j'ai dire, Seigneur, je suis dans ta présence et le Seigneur nous équipe, justement, pour aimer notre collègue, pour aimer notre patron, pour aimer notre voisin. Et cette intimité, c'est ça. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait dans la vie du croyant. Développons une discipline spirituelle et développer cette intimité nous garde aussi vigilants, les amis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, nous dit Matthieu 26, le verset 41. La marche chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je ne vous enseigne rien, c'est pas une nouvelle. Une nouvelle, je ne sais pas comment dire ça, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau ce que je dis. On le voit au quotidien. Et la vie chrétienne, c'est comme des montagnes russes. C'est comme des dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours soi-disant tranquilles et des jours de combat spirituel. Des luttes contre les tentations. Et si nous ne développons pas cette discipline de lire la Bible, et de prier, de rester connecté à Dieu, mes amis, l'ennemi va nous maltraiter, va nous malmener. Et quand je dis il va nous malmener correctement. Et on peut le voir. Quand Jésus dit à ses disciples, veillez et priez, qu'est-ce qui se passe bien plus tard? Ils dormaient. Ils sont partis sur la montagne pendant que Jésus était en train de prier. Eux, ils dormaient. Et quand la tentation est arrivée, ils ont tous taillé. Tous. Et j'aime bien, à Marc, ils ont taillé au point, il y a un qui a laissé son vêtement, il a couru tout nu. parce que c'était très compliqué pour lui. Quelques instants, Pierre arrive. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, est-ce que tu es le disciple de Jésus? Il dit trois fois, je ne suis pas, je ne connais pas cet homme. Il renie Jésus complètement. Mais Jésus les avait dit, ça va arriver. Priez, préparez-vous, restez dans l'intimité avec Dieu, sinon vous allez basculer de l'autre bord. Oui, les amis, on a besoin de cette intimité justement pour faire face aux tentations. Les tentations sexuelles, les tentations de vouloir abandonner la foi, le doute, toutes ces questions que l'ennemi met souvent dans nos oreilles pour nous dire, tu sais, tu n'es pas aimé de Dieu. Si tu étais aimé de Dieu, ouf, tu aurais déjà eu peut-être une Tesla, je ne sais pas, ta vie devait être pépère, tu voyagerais, tu auras un compte bancaire toujours rempli, ta vie sera tranquille. Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 4, lorsqu'il est face à la tentation du diable, parce qu'il priait, il était dans cette intimité avec le Père, il pouvait répondre justement au diable en disant, il est dit dans la parole, oui, ce que tu dis, il y a une part de vérité, mais il y a du mensonge dans ce que tu dis. Mais c'est parce qu'il avait cette connexion avec Dieu, parce qu'il était dans cette intimité, qu'il pouvait répondre ainsi à l'ennemi. Cette intimité développe notre vigilance, les amis. On a besoin d'être vigilants. Si Jésus a été tenté, ne pensez pas que vous et moi ne serons pas tentés. Nous serons tentés, nous sommes déjà tentés chaque jour. Mais nous avons besoin de cette intimité. Grâce à son intimité, Jésus vainc le diable. Grâce à son intimité, Daniel s'affirme et décide d'obéir à Dieu plutôt qu'au roi. Grâce à son intimité, Joseph peut dire non aux propositions de la femme de Potiphar. Grâce à cette intimité, Dieu t'équipe pour la bataille qui est en face de toi. La semaine prochaine, je ne sais pas par quoi vous allez passer, dans quelle bataille vous serez confronté, au boulot, à la maison, avec la famille, quoi que ce soit. Comment vous la préparez, cette bataille? Vous voulez voyager jusqu'à Marseille en voiture? Est-ce que vous faites le plein ou vous ne la faites pas? Moi, je vous conseille de faire le plein. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver sur la route. Van sèche, sur l'autoroute, pas de station-service, c'est plus de dépenses, plus de tracas et plus de frustration. C'est pareil avec la foi. Mettons le carburant, les amis. Je parle à moi, je parle à vous, je parle à tout le monde, parce que nous sommes tous dans la même situation, nous avons tous besoin de cela. Elle est vitale parce qu'elle nous donne aussi la paix. Elle nous donne la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une expérience, vous trouvez des situations compliquées, c'est ce que je viens de dire, hein. On est dans des situations parfois compliquées et justement on se retrouve là, on voit cette paix de Dieu qui est là. Oui, Dieu est le Dieu de paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Cette intimité aussi, pour finir avec ces sept raisons, développe notre confiance en Dieu. Les passages nous encouragent lorsque nous sommes confrontés à des difficultés liées au péché, les études qui sont parfois difficiles, la vie professionnelle qui est compliquée, les relations avec les familles, avec les amis, les sentiments de ne pas voir le bout du tunnel, parfois lorsqu'on est dans un tunnel absolument totalement noir. Nous avons plein d'exemples dans la Bible où cette intimité développe aussi une confiance inébranlable, les amis. Des psaumes de confiance. Hein? Vous en connaissez un peu quelques psaumes de confiance? Merci à vous. Le psaume 16, le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Hein? Parce qu'on médite la parole de Dieu, on peut se dire ça quand on passe dans des situations difficiles. On voit aussi le psaume 23. Qui connaît le psaume 23? Le psaume 23. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Vous avez déjà vu comment un berger prend soin des brebis? C'est extraordinaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On peut voir aussi le psaume 34. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qu'on ne passe pas des frayeurs. Le psaume 121, le verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Quand je sais que c'est ce Dieu qui a fait le ciel et la terre, je comprends que rien sur cette terre ne le dépasse parce qu'il est souverain. Le psaume 125, le verset 1, il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Je peux en citer encore plus loin comme ça, hein? Mais on s'arrête juste là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se sentir proche de quelqu'un. Nos influenceurs, je ne sais pas si vous êtes, si vous suivez des influenceurs, hein? On peut être proche d'eux, on peut être proche de tous les sportifs, Mbappé, Dembélé, qui a eu le ballon d'or. On peut les suivre. On peut connaître un tas de choses sur eux, mais sans jamais les avoir rencontrés. Hein? On peut suivre Mbappé sur Instagram, TikTok. On aime leurs photos. Hein? Ce qu'on dit souvent, on va liker sa photo. On connaît même leur playlist préférée, hein? Parce que les médias, ils nous mettent ça en disposition. Mais on n'a jamais échangé un mot avec eux. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous voulez être des fans de Jésus, ou vous likez tout ce qui concerne la Bible, mais sans avoir une relation avec celui qui a écrit la Bible? Dieu ne veut pas des fans, mais Dieu veut des disciples qui le suivent et qui gardent ses relations intimes avec lui. Est-ce que nous voulons être des disciples, ou nous voulons être juste fans? Je vous invite à être des disciples, parce qu'on a plus à gagner à être disciple qu'à être fan. Les fans, Dieu les regarde, il dit, bon, c'est là, vous avez loué Dieu, vous avez lu la Bible, vous avez servi dans l'église. Et après, à la fin, il dit, je ne vous ai jamais connu, les amis. Moi, je ne vous connais pas. Et non, j'aimerais être au ciel et avoir Dieu en face de moi. Il me dit, waouh, Jean, je te connais. J'ai vu que tu as gardé. J'ai vu comment tu as persévéré. J'ai vu comment tu as tenu. Et pour cela, je te connais. J'ai vu cette relation que tu as chérie de tout ton cœur. Alors les amis, le dernier point, c'est comment mettre en place une intimité quotidienne. Alors je vais vous avouer que ça a été très compliqué pour moi de trouver quelque chose à vous dire par rapport à ça. Parce que c'est compliqué de mettre des choses en place. On peut mettre des choses en place, hein, mais je vais juste vous rappeler que quand on met des choses en place, on compte sur la grâce de Dieu. Pas sur nos forces, nos capacités. C'est mort. J'ai commencé il y a quelques jours. Le truc, j'étais motivé. Au bout de 4 jours, j'avais déjà perdu la main. Je me dis, waouh, Seigneur, j'ai besoin vraiment de ta grâce pour pouvoir tenir sur la durée. On peut se fixer des objectifs, déjà, de se dire, Seigneur, je veux changer ma manière de faire. J'aimerais avoir cette relation vraie avec toi. Une relation profonde, pas une relation éphémère. Je viens à l'église, je sers, je fais ça. Après, je pars, basta, je reprends ma vie encore là où je l'ai mis en pause. Non. J'aimerais que chaque étape de ma vie soit vraiment à la lumière de ta parole. Une discipline, et quand je parle de discipline, si ce n'est pas une discipline avec une rigueur, hein, parfois on a souvent des rigueurs que j'appelle un peu du légalisme. Je vais faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais non, une discipline axée toujours sur la grâce de Dieu. L'intimité est un acte d'amour et non une contrainte. On peut avoir des habitudes régulières. Si tu as déjà eu, et je ne sais pas, peut-être vous avez déjà eu la possibilité d'avoir un peu un rythme de méditation, de prière. Peut-être c'est le matin, pour certains c'est le midi entre midi et deux, justement, pour s'arrêter et prendre ce temps. Peut-être c'est le soir. Mais tout ce que je peux seulement nous dire, persévérons et continuons. Et si nous avons arrêté, on peut juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je sais qu'avec toi, je peux vivre des choses folles, merveilleuses, des choses extraordinaires. Et je sais que l'ennemi sait cela et qu'il ne veut pas mon bonheur. Mais j'ai besoin de ta grâce pour y aller, pour y arriver. Donc aide-moi. Et si tu n'as pas encore mis cela en place, en fait, je te dis simplement, commence juste par des petits bouts. Je n'ai pas dit, va lire la Bible en un an. C'est mort. Oui, c'est possible avec Dieu. Mais tu vas galérer. Tu peux juste dire, je vais faire peut-être des petits pas. Je veux prendre des méditations juste de 10 minutes. Je m'arrête 10 minutes. Je lis ma Bible. Je l'écoute. Je reste dans le silence. J'écoute une louange et j'exprime simplement des simples mots au travers de ce texte. Ça peut être des choses simples. Et après, comme nous sommes appelés tous à grandir, on peut développer encore de plus en plus. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je ne sais pas si vous voulez faire 2 heures. Bon courage. Mais voilà, ça peut être des petits pas comme ça. Cherchez à vivre cette relation. Lisons notre Bible pour rencontrer Dieu, les amis. Il y a des églises qui sont persécutées. On voit l'Afrique du Nord, on voit partout, les gens n'arrivent pas à avoir accès à cette Bible, ce trésor que nous on met là, qui prend de la poussière. Chérissons cette Bible, c'est là où on rencontre Dieu. Parfois on dit, je cherche la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne va pas apparaître comme ça, c'est dans sa parole qu'on la trouve, sa volonté. aide-moi à le comprendre. Il y a des moments dans mon ministère, je suis découragé, je me dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté pour cette église. Est-ce que je m'arrête en tant que pasteur et me dis, Seigneur, je vais chérir cette parole, je vais la lire et t'écouter me parler pour me montrer la direction à prendre. Intégrer Dieu par des petits gestes, au travail, à l'université, en famille, en déplacement, ça peut être des coups de prière. Du style, merci Seigneur pour ce repas. Hein? Juste prendre la nourriture, manger, mais juste merci Seigneur pour ce repas. Il y a certains qui ne l'ont pas. Quand on regarde les médias, c'est dur pour certains. Mais merci Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ma collègue. Merci Seigneur pour mon patron qui m'énerve. Ne dis pas Seigneur qui m'énerve, mais dis juste Seigneur merci pour mon patron parce que je sais que tu l'as mis sur mon chemin pour me transformer. Frère Laurent de Résurrection, un moine du XVIIe siècle, dit « Il n'est pas nécessaire d'être longtemps à genoux pour être avec Dieu. Il est toujours proche de nous. Hein? » Oh, c'est pas parce que j'ai fait une heure que je crois que le Seigneur est proche de moi. Je peux juste faire une minute. Le Seigneur, il est déjà proche de moi. Il a dit qu'il n'est pas seul. Et s'il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu de vérité. Il est avec nous tous les jours. Mais ce qu'il demande, c'est juste que nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, que nous allions vers lui. Et c'est ce qu'il dit dans Jacques. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui devons faire le pas. Lui, il est déjà là. Hein? Dans ma chambre, il est déjà là. Dans mon travail, il est déjà là. Et il faut aussi que je l'amène aussi dans mon travail pour lui laisser la possibilité. Mais il est déjà là. Mais est-ce que nous le laissons entrer? Il dit, Seigneur, voici une chaise, assieds-toi, on va discuter. J'aimerais te dire, voilà, il y a ça, ma famille vit là, il y a l'éducation. Il y a ça là avec mon copain, il y a ça avec ma copine, il y a ça avec mon mari, c'est compliqué. Est-ce qu'on prend ce tête-à-tête où on met des chaises, on s'assoit dans notre chambre, ou je ne sais pas où, on dit, Seigneur, on aimerait discuter, j'aimerais discuter avec toi. S'entourer, et ça c'est aussi quelque chose qui peut nous aider, s'entourer des personnes qui ont soif de Dieu. Si je m'entoure de quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu, c'est compliqué. Et je vais finir ces quelques phrases, et pendant que je suis en train de les finir, j'invite l'équipe de louange. S'entourer des personnes qui ont soif de Dieu, les amis. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. On a besoin, je ne dis pas qu'on doit laisser tous nos amis non chrétiens. Nos amis non chrétiens ont besoin de voir la lumière qui brille. C'est celle qui est nous, cette lumière qui brille. On peut voir des amis. Développer des groupes de croissance. C'est quoi un groupe de croissance? C'est quelque chose de simple. C'est des petits groupes qui se rencontrent, qui lisent la Bible, ont juste le temps de redevabilité les uns les autres et qui prient ensemble. Et ça peut être un moyen justement. Et on peut s'instaurer aussi des défis de lecture. Des lectures. Aujourd'hui, on va lire Romains. On s'est dit, on va lire Romains tous ensemble. On s'est dit, on prend 2-3 personnes et on s'encourage à lire. Chérissons cette intimité avec Dieu. Des fans ou des disciples? La question, elle est là. Si tu es là ce soir, tu pouvais être ailleurs, en train de faire ta vie, à faire ce que tu voulais. Mais si le Seigneur t'a donné la possibilité d'être là, c'est juste parce que le Seigneur veut t'interpeller sur ton tête-à-tête, sur ton cœur à cœur avec lui, ton intimité. Et ma prière ce soir, c'est que nous ne sortions pas d'ici là sans prendre ces résolutions. Seigneur, je veux développer cette relation profonde avec toi. Je ne veux pas être juste un chrétien consommateur, mais je veux être un chrétien qui vit vraiment sa vie. Peut-être vous êtes venu avec des difficultés dans ce domaine. N'hésitez pas, si vous êtes là et que vous dites, moi j'ai de la peine, j'ai besoin de prière, vous pouvez juste avancer. Il y a de la place. Il y a le pasteur Diaz, il y a le